La revue de presse internationale, une revue de presse avec Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour.
Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, a entamé hier une tournée très stratégique en Asie.
Pakistan, Inde, Chine, voilà les trois destinations retenues pour cette première grande tournée en Asie de celui que l'on surnomme de ses initiales MBS, qui n'est pas encore roi mais qui est déjà aux commandes du royaume saoudien. MBS donc est à Islamabad depuis hier. Il se rendra ensuite à New Delhi et cet enchaînement à lui seul résume, pour le South China Morning Post, l'exercice d'équilibriste géopolitique que représente toute cette tournée. La corde est étroite, tout autant qu'elle est raide quand on connaît les tensions qui persistent entre le Pakistan et l'Inde. Pas plus tard que ce matin, 4 Indiens ont été tués dans un attentat dans la région disputée du Cachemire. Les deux puissances nucléaires de l'Asie se disputent déjà les faveurs du prince saoudien. Et ce dernier, il faut bien le dire, a mis la barre haut en termes d'amitié et de contrats signés hier avec les autorités pakistanaises. C'est le Times of India qui détaille, non sans une bonne dose de dédain, comment le Pakistan, que l'on dit au bord de la banqueroute, déroule le tapis rouge à MBS. Le premier ministre pakistanais, Imran Khan, a tout fait, nous dit-on, pour soigner l'accueil du Saoudien et ça paye déjà en termes de contrats signés. Il y en aurait pour 20 milliards de dollars. Dans le journal anglophone pakistanais Le Levant, MBS se dit convaincu que le Pakistan va devenir un pays incontournable dans un futur proche et l'Arabie Saoudite veut être à ses côtés. Incontournable, le Pakistan l'est déjà, poursuit le South China Morning Post. En ce qui concerne la politique saoudienne de containment de l'Iran, pas de surprise donc, si c'est dans la région frontalière du Baloutchistan que Riyad concentre ses investissements attendus à hauteur de 10 milliards de dollars, rien donc que pour le Baloutchistan. Mais attention, nous dit le quotidien de Hong Kong, plus MBS en rajoutera dans ses déclarations d'amour intéressées au Pakistan et plus l'Inde, où il se rendra dès demain, risque de se vexer. Et personne n'y a intérêt, pas les dirigeants indiens qui sont en pleine campagne électorale particulièrement tendue et avec le conflit au Cachemire qui reprend de l'intensité. Pas non plus le prince héritier saoudien qui lui s'est lancé dans cette tournée asiatique pour se donner un peu d'air, pour renforcer ses alliances dans une région du monde où il est encore le bienvenu sans qu'on lui demande incessamment des comptes sur l'assassinat du journaliste Khashoggi. La chaîne Qatari Al Jazeera s'interroge d'ailleurs enfin sur ce que ce nouveau tropisme asiatique de l'Arabie Saoudite nous dit des relations déclinantes entre Riyad et son traditionnel grand allié à l'ouest, les États-Unis.
Les États-Unis, où la contestation, Camille, prend de l'ampleur face aux pratiques sociales et fiscales du géant de la vente en ligne Amazon.
Et c'est précisément à New York que cette contestation a pris corps en fin de semaine dernière, comme nous le rappelle le magazine Time. Jeudi, Amazon annonçait renoncer à installer dans la métropole de l'Est américain ses deuxième quartier généraux, après bien sûr son siège historique de Seattle sur la côte ouest. Amazon, dirigée par le très médiatique Jeff Bezos, claque donc la porte au nez de New York. Elle n'y créera pas les 25 000 emplois promis autour du quartier populaire du Queens. Et c'est une réaction à la colère qui montait dans la gauche new-yorkaise contre les largesses promises à l'entreprise par l'administration fiscale. Amazon avait obtenu un allègement d'impôts locaux de près de 3 milliards de dollars contre son installation, une sorte de zone franche taillée sur mesure et concédée, nous dit le Time, dans des accords secrets avec le gouverneur démocrate de New York, Andrew Cuomo. 3 milliards de recettes en moins pour le fisc, ce serait donc le prix à payer pour 25 000 emplois. L'aile gauche des démocrates, incarnée par la jeune et omniprésente Alexandria Ocasio-Cortez, y a vu une concession inacceptable, un blanc-seing aussi accordé à Amazon, laquelle est accusée d'incarner aussi bien les ravages de la vente agressive en ligne sur les commerces dans les grands centres urbains que l'abaissement des standards de protection sociale des salariés. Au final, ce matin encore, dans le New York Times, deux écoles s'affrontent sur le sujet. Entre la vieille garde démocrate qui regrette les emplois perdus dans des quartiers où le chômage est très élevé et l'aile Ocasio-Cortez donc, qui se réjouit d'avoir posé un premier acte retentissant de résistance contre Amazon. Ce camp-là est rejoint dans une tribune, toujours au Times, par le maire de New York, Bill de Blasio, qui renvoie la faute sur Amazon et non sur ses détracteurs. Le géant d'Internet, nous dit le maire, donc aurait pu répondre aux critiques en leur donnant tort, en s'engageant à améliorer ses pratiques sociales et en payant ses impôts. Il a préféré renoncer plutôt que de discuter. Et cela, conclut Bill de Blasio, en dit long sur le sentiment de toute puissance qui anime les dirigeants d'Amazon.
Et puis on termine pour aujourd'hui avec ces images glaçantes venues de Bulgarie.
Images de près de 2000 militants néo-nazis qui défilaient samedi soir, torches enflammées à la main dans le centre de Sofia. C'était leur marche pour Loukov, du nom de Hristo Loukov, général pro-nazi, figure collaborationniste en Bulgarie, tuée par un communiste pendant la Deuxième Guerre mondiale. Des saluts hitlériens, des chants nationalistes, des slogans racistes et antisémites, rien n'a été épargné pour ce moment d'affirmation en pleine capitale de l'extrême droite la plus radicale de Bulgarie. La Deutsche Welle allemande remarque tout de même que de nombreux participants venaient d'autres pays, d'Allemagne justement, mais aussi de Hongrie ou encore de Suède. À Euronews, certains de ces nouveaux nazis européens ont dit l'importance de ce genre de rassemblement car il permet, selon eux, aux différentes mouvances nationalistes du Nord européen de garder le contact, d'échanger, de travailler ensemble pour défendre, disent-ils, leur conception de pays libres et indépendants. Sur les 2000 qui ont défilé à Sofia samedi, combien connaissaient vraiment l'histoire de Hristo Lukov, s'interroge le journal bulgare Fakti, avant de répondre qu'ils étaient bien peu. La plupart étaient venus là pour y défouler leur haine, leur agressivité et leur complexité aussi. Le site spécialisé Balkan Insight donne, lui, enfin la parole aux centaines d'antifascistes bulgares qui s'étaient déplacés pour faire face à la marche Lukov samedi à Sofia. Eux dénoncent l'indifférence des politiques à la tête du pays face à cette démonstration de force des néo-nazis. Le parti de centre-droit du Premier ministre Borisov a dû s'allier à des formations nationalistes pour obtenir sa majorité. Et depuis, la parole d'extrême droite, il faut bien dire, s'exprime toujours plus librement en Bulgarie. La marche de samedi avait d'abord été interdite par la ville de Sofia avant d'être finalement autorisée par un tribunal local.
Merci beaucoup Camille Magnard. On retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr.